Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
À l'initiative du Royaume du Bhoutan, les Nations Unies ont accueilli le 2 avril 2012 à New York la toute première réunion de haut niveau sur le thème « Le bonheur et le bien-être, définir un nouveau paradigme économique ». Les travaux de la réunion lancés en présence notamment de Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU, et du premier ministre du Bhoutan, Jigme Tinley, s'appuient sur une résolution de l'Assemblée générale intitulée « Le bonheur vers une approche globale du développement ». Dans ce texte, l'Assemblée générale considère que, de par sa nature même, le PIB, le produit intérieur brut, est un indicateur qui ne donne pas une image exacte du bien-être de la population d'un pays. Bonjour à toutes et à tous, au micro Jean-Pierre Amissi Ramazani. La résolution de l'Assemblée générale sur le bonheur invite les États membres à tenir mieux compte de l'importance du bien-être pour le développement afin d'orienter leur politique nationale. Nous avons interviewé sur ce sujet quelques participants à la réunion de haut niveau à New York. Commençons par le point de vue d'Alexander Stille sur les indices pour mesurer les progrès de société dans divers pays.
Je suis Alexander Stille et je suis professeur de journalisme international à la Columbia University. Je suis venu à la conférence du gouvernement du Bhoutan sur le bonheur et les moyens pour mesurer l'état d'une économie.
Est-ce que vous pensez que le bonheur est mesurable?
Je crois que oui. Même en France, la commission du gouvernement Sarkozy a commissionné l'économiste américain Joseph Stiglitz pour étudier des autres indices pour mesurer le bonheur de nos sociétés. On a trouvé que les indices traditionnels de produit national n'est pas suffisant. Ça mesure seulement activité économique d'un certain type et il ne donne un portrait complet de la société. Et l'idée de mesurer, par exemple, les effets négatifs d'activités économiques, la pollution, etc., doit être partie de notre vision de l'économie.
Est-ce que vous pensez que le modèle bhoutanais peut être exporté dans d'autres pays? Est-ce que ce n'est pas un modèle propre au Bhoutan plutôt que d'essayer de le généraliser dans d'autres pays, surtout dans les pays de la société occidentale?
Certainement, exporter le modèle bhoutanais aux États-Unis, c'est une idée utopique, difficile à réaliser, mais tout à fait intéressant. On voit que même un pays comme la Chine, qui était en passé hostile à ses activités économiques, commence à revoir ce problème. Nous avons entendu un discours d'un ministre de la Chine. Malheureusement, les problèmes écologiques sont réels. Même un pays comme les États-Unis se doit faire les comptes avec les effets de la pollution et des limites à la croissance économique.
Est-ce que vous pensez que le bonheur doit aller en principe absolument de pair avec le développement économique?
Oui, ça dépend. Chaque pays peut définir le bonheur dans une manière différente. Mais même aux États-Unis, il y a des étudiants qui ont cherché de créer autre moyen de mesurer le progrès d'une société, de mesurer avec activité économique, la longévité de la vie, niveau d'alphabétisation, choses comme ça. Activité économique est surtout un indice très important pour mesurer le progrès dans notre société.
Le bonheur revient, le bonheur repart.
Le développement durable reconnaît que nos objectifs économiques, sociaux et environnementaux ne sont pas des objectifs en concurrence qui peuvent faire l'objet de marchandages, mais ils sont au contraire connectés entre eux et doivent être poursuivis de façon globale, a rappelé Ban Ki-moon au cours de la réunion de haut niveau sur le bonheur. Selon le secrétaire général de l'ONU, le bien-être social, économique et environnemental sont indivisibles. Il a ajouté que la conférence de l'ONU sur le développement durable Rio+20 prévue au Brésil en juin 2012 est l'occasion d'entamer une transformation des économies. Pour cela, il faut, selon lui, la participation de toutes les parties prenantes, des gouvernements, des décideurs politiques, des dirigeants d'entreprises et d'organisations non gouvernementales, ainsi que des jeunes. Et justement, parmi les jeunes participants à la conférence de New York, Daniel Ng, du Canada World Youth.
Mon nom est Daniel Ng et je viens du Canada. Vous êtes ici aux Nations Unies, et je vous vois dans une salle de conférence sur le bonheur national brut. Alors, qu'est-ce qui vous intéresse dans cette conférence?
Bon, premièrement, je suis ici avec une organisation qui s'appelle Canada World Youth, la jeunesse Canada. Nous sommes ici, nous sommes intéressés comme sujet de bonheur national et on veut apprendre qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le bonheur dans tout le monde.
Mais le Canada, c'est un pays riche, un pays développé. Est-ce que vous pensez qu'il y a nécessité encore de chercher le bonheur dans un pays riche comme le Canada?
Oui, c'est intéressant parce que les Canadiens, il y a vraiment des vrais Canadiens. Ils sont tous des familles qui sont déménagées de leur propre pays. Si c'est la Chine ou l'Afrique, les parents sont déménagés au Canada pour établir une nouvelle vie dans un pays qui est riche, mais il y a aussi des opportunités. Donc, mais pourquoi est-ce que ces gens déménagent de leur pays? Donc, il faut chercher une solution où il y a des personnes qui restent dans leur pays.
Alors, dites-moi un peu, qu'est-ce que vous apprenez de nouveau dans cette réunion qui se passe aujourd'hui aux Nations Unies?
Bon, premièrement, on veut savoir qu'est-ce que toutes les autres nations, qu'est-ce qu'ils veulent aussi, comme par exemple les autres pays riches, qu'est-ce qu'ils pensent de cette nouvelle paradigme de bonheur et quelle étape est-ce qu'ils veulent prendre pour améliorer. Donc pour moi personnellement, je veux savoir il y a quoi comme indicateur concret qu'on peut apprendre pour améliorer ces indicateurs.
Pour le moment, qu'est-ce qui manque au Canada, par exemple? Vous êtes de Toronto. Qu'est-ce que vous constatez dans votre ville, dans votre région, là-bas au Canada? Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer dans le sens du bonheur?
C'est la parité, parce que au Canada, il y a un problème qui est même aux États-Unis. Il y a les riches qui deviennent plus riches et les pauvres qui sont encore plus pauvres. Donc, il y a cette disparité qui doit devenir plus petit pour qu'il y ait plus d'égalité au Canada et tout le monde peut participer dans ce bonheur national.
Parce que ici, je ne sais pas si les valeurs en termes de richesse et de pauvreté sont les valeurs primordiales dans ce genre de conférences sur le bonheur national brut. Vous voyez, c'est à l'initiative du Bhoutan notamment. Bhoutan qui est un petit pays pauvre en Asie. Mais eux, ils ont peut-être d'autres valeurs en dehors peut-être de richesse, de pauvreté. Alors, qu'est-ce que vous avez décelé dans cela? Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que les idées qui viennent des Bhoutanais ici peuvent être appliquées ailleurs, peuvent être appliquées au Canada ou dans le reste du monde?
Je pense que c'est une bonne remarque parce que c'est une vision du monde qui n'est pas partagée par la majorité du monde. Donc, si on peut apprendre du Bhoutan pour savoir comment on peut vivre dans un système où on n'est pas dépendant de l'argent et les choses matérielles, les choses comme ça, donc je pense que c'est une bonne chose à apprendre pour tout le reste du monde.
Est-ce que vous pensez qu'on peut bien vivre sans argent?
Je pense que ce n'est pas seulement une pensée, il y a déjà beaucoup de gens qui vivent sans argent, donc je pense que c'est possible, oui.
Parlez-moi maintenant de votre organisation, vous avez parlé d'une organisation canadienne.
Oui, c'est la jeunesse Canada World Youth. On essaie d'améliorer les opportunités pour les jeunes au Canada, donc on va entrer dans des communautés où on a des programmes qu'on peut éduquer les jeunes. Et aussi, on les envoie dans des pays pour travailler dans des communautés qui n'ont pas beaucoup d'argent et d'aide internationale.
Dans quel pays? Des pays d'Afrique, par exemple?
Il y a des programmes en Afrique, mais la plupart des programmes sont en Amérique du Sud. Et aussi en Afrique, on a des programmes.
Comment voyez-vous l'avenir du monde avec ces grands mécanismes comme mondialisation, comme pauvreté, comme richesse, etc. pour les uns, pauvreté extrême pour les autres? Comment voyez-vous? Quel est votre point de vue?
Ça ne change pas vraiment dans la bonne direction maintenant. Il y a encore des pays qui sont dépendants sur les États-Unis, sur d'autres forces majeures dans le monde. Et on doit trouver une solution pour comment est-ce qu'on peut bouger le capital privé. Comme il y a beaucoup d'argent avec les banques, avec des institutions privées. Comment est-ce qu'on peut bouger ce capital pour des investissements dans ces pays pauvres, pour améliorer l'infrastructure de ces pays? Comment est-ce qu'on peut améliorer les universités, les écoles, l'accès à l'énergie? Ce sont tous des choses critiques pour les étapes à venir.
Des fois le bonheur, il suffit d'une phrase, d'un mot. Oui, le bonheur, juste un sourire, un regard. Des fois le bonheur.
co-auteur de la résolution de l'Assemblée générale de l'ONU sur le bonheur, le Bhoutan a adopté en 1972 l'indice du BNB, le bonheur national brut, une définition du niveau de vie qu'il croit plus holistique que le PIB, le produit national brut. L'indice repose sur les quatre principes fondamentaux auxquels le Bhoutan attache une part égale, à savoir la croissance et le développement économique, la conservation et la promotion de la culture, la sauvegarde de l'environnement et l'utilisation durable des ressources, ainsi que la bonne gouvernance responsable. Qu'en pense l'architecte Albert Dubler ?
Je m'appelle Albert Dubler, je suis président de l'Union internationale des architectes. J'ai été élu dans un congrès de l'UIA à Tokyo, auquel congrès nous avions invité le Premier ministre du Bhoutan, qui nous a fait une remarquable conférence. Donc, voilà, ça c'est la raison de ma présence ici.
Okay. Alors ici, cette conférence-là sur le bonheur, c'est quelque chose d'inhabituel en fait. Le bonheur, bien sûr, tout le monde est en quête du bonheur, mais quelles sont vos impressions là-dessus ?
Mon impression est, d'une part, que nous prêchons depuis longtemps que les seuls critères économiques ne sont pas les bons critères. Par exemple, quand on choisit un architecte, nous faisons en sorte que on ne choisisse pas le moins cher ou le plus cher, mais plutôt le meilleur. Donc nous avons un système de sélection basé sur des critères de qualité. Les critères de qualité ne sont pas tous mesurables directement, mais voilà, on peut faire la démonstration que ça marche quand même. Alors évidemment, quand nous avons entendu parler du bonheur intérieur brut, nous, ça nous intéresse au plus haut point. D'une part, parce que le Premier ministre du Bhoutan nous a dit que l'architecture faisait partie du bonheur. Donc évidemment, on ne va pas lutter contre, parce que pour une fois que quelqu'un nous soutient dans le monde politique, c'est une aubaine.
Est-ce que vous pensez que la notion du bonheur qu'on développe aujourd'hui peut remplacer en fait la notion de matériel, de la notion d'argent, la notion de richesse ?
Oui, il est assez évident que les critères purement économiques ne suffisent pas. Exemple, l'Alaska a eu une croissance extraordinaire de son PIB au moment de l'accident de l'Exxon Valdez, alors que toute la faune et toute la flore ont été détruites en Alaska par cet accident pétrolier. Donc, depuis cette époque-là, le monde entier se dit que le seul PIB n'est pas pertinent. Donc, à partir du moment où on se rend compte qu'une chose, un indicateur n'est pas suffisant, il est légitime de chercher d'autres indicateurs. Pour l'instant, je ne connais pas d'autres que ceux qui ont été proposés ici. Peut-être qu'il en existe, mais moi, je ne les connais pas.
Qu'est-ce qu'il faudrait faire, selon vous, pour que le bonheur soit accessible à tous dans le monde ?
Une des choses, c'est qu'il faut arrêter de penser que le bonheur, c'est l'accumulation de biens matériels. Alors évidemment, ça, c'est pas facile à expliquer à des gens qui meurent de faim. Alors la première condition du bonheur, c'est premièrement l'éradication totale de la pauvreté. C'était un des objectifs du millénaire pour l'ONU. Et je pense que le fait que l'humanité n'a pas réussi à atteindre cet objectif du millénaire, en tout cas pas encore totalement, est une des raisons pour lesquelles le monde actuellement fait face à quatre crises. En même temps, une crise financière, la crise écologique, la crise de l'énergie et la crise de la pauvreté qui est encore trop importante.
Est-ce que les Français sont heureux ?
J'en connais certains qui sont heureux, même s'ils n'ont pas très riches. J'en fais partie.
Merci beaucoup.
Je vous en prie.
Et maintenant, je sais à quoi le bonheur ressemble, à quoi le bonheur ressemble, à quoi le bonheur ressemble.
Enfin, la réaction de João Alberto Dourado, conseiller de la mission permanente du Brésil auprès des Nations Unies à New York.
Je m'appelle João Alberto Dourado, je travaille la mission du Brésil auprès de l'ONU. Je pense que l'idée est très valable pour le Brésil. Nous aurons la conférence de Rio plus 20, qui se concentre dans l'environnement pour sauver la planète de cette situation de dégradation de nos jours. C'est un agenda très positif, mais nous avons la peur que les pays les plus développés peuvent s'utiliser de cet agenda-là pour imposer des conceptions et des indicateurs qui ne sont pas de l'intérêt du tiers-monde.
C'est sur cette note que s'achève Escale sur les discussions pour considérer le bonheur et le bien-être comme un nouveau paradigme économique. Escale est un magazine de la radio des Nations Unies. Il vous a été présenté par Jean-Pierre Amissi Ramazani avec l'assistance technique de Florence Westergaard et de Zach Pruitt. Au nom de toute l'équipe, je vous remercie de l'avoir écouté. À la semaine prochaine.